Vous écoutez, on lit pour vous.
Le partage de nourriture comme langage d'affection. Un texte de François Régimbal, Éric Richard, Gabriel Roy et Aude Fournier, paru dans le numéro du printemps 2025 de la revue du Crémis. Donner des repas, c'est vraiment mon langage d'affection de première classe, dit Gilles, prénom fictif. Participant, participante au projet de recherche dont le cas particulier fait l'objet du présent texte. Notre rapport à l'alimentation est influencé par divers facteurs familiaux, sociaux et culturels, et nos comportements alimentaires ne peuvent être réduits à notre besoin de se nourrir. Dans le cas des étudiants, étudiantes au cégep, les pratiques alimentaires, telles que manger seul, en déplacement ou privilégier la consommation de collations, sont tributaires des changements importants qui caractérisent cette étape de la vie. On peut notamment penser à l'apprentissage de la prise en charge des repas, aux horaires décousus et à la surcharge de travail. C'est ce que montrent nos travaux de recherche visant à mieux saisir les comportements alimentaires des cégepiens-cégepiennes. Dans un contexte où ils et elles apprennent le métier d'étudiant-étudiante, doivent s'adapter à un nouvel environnement éducatif, réfléchissent à leur orientation scolaire et professionnelle, traversent la reconfiguration de leur réseau de pairs, expérimentent la décohabitation familiale, développent leur autonomie, préparent leur intégration au marché du travail, entre autres enjeux du passage à l'âge adulte, ils et elles sont également appelés à prendre en charge, totalement ou en partie, leur alimentation. On s'intéresse pourtant peu à ce que représente l'alimentation pour de jeunes adultes se trouvant à une période charnière de leur vie. Bien que la littérature scientifique soit abondante sur le thème de l'alimentation chez les populations étudiantes au post-secondaire, les écrits se penchent surtout sur la question de l'insécurité alimentaire et des conséquences sur la réussite, le décrochage scolaire, la santé mentale et les conditions économiques. Cet article a pour but de montrer que les comportements alimentaires des cégepiens-cégepiennes sont en partie déterminés par des expériences marquantes ayant façonné leur histoire, en mettant en lumière le cas de Gilles, une personne ayant participé à nos travaux de recherche, pour qui la préparation et le partage de nourriture est source d'autonomie, vecteur de lien social et constitue ce qu'elle considère comme un langage d'affection. L'importance des routines. « C'est toujours ce que je fais. Dès que je me lève, je déjeune », dit Gilles. Lors de notre rencontre, Gilles est âgé de 19 ans et est inscrite à temps plein au cégep du Vieux-Montréal. Il s'identifie comme une personne non-binaire, travaille entre 15 et 25 heures par semaine et suit une diète alimentaire végétarienne. Habitant toujours avec ses parents et sa sœur dans la maison familiale, Gilles utilise le transport en commun pour se rendre au cégep, pour un temps de déplacement d'environ 2 heures par jour. Comme la plupart des cégepiens-cégepiennes, Gilles mentionne que ses comportements alimentaires sont routiniers et s'ancrent dans une surcharge de travail. Mais les semaines sont tellement occupées et des horaires qui ne concordent pas avec les autres, ce qui limite les moments de commensalité et de pleine conscience en mangeant, tout le monde ayant ses tâches à faire. Gilles se distingue des autres étudiants et étudiantes en investissant beaucoup d'énergie et d'organisation dans la préparation de lunch. En effet, il mentionne être extrêmement méthodique et en faire la préparation pendant la fin de semaine, moment propice pour faire du canage, des lunchs congelés ou de la nourriture déshydratée qu'elle conserve dans son casier pour se dépanner au moment jugé opportun. Elle partage cet intérêt pour la préparation des repas avec le reste de sa famille, soulignant cuisiner depuis qu'elle est tout petit. On fait du canage, puis naturellement on congèle beaucoup de choses. Gilles ajoute que l'alimentation a été au centre de son histoire familiale, sa mère ayant grandi sur une ferme laitière, alors que son père et plusieurs autres membres de sa famille ont occupé différentes fonctions dans un abattoir. Gilles prépare aussi des lunchs pour ses amis au cégep ou pour d'autres étudiants et étudiantes. Yael a également instauré avec sa sœur l'habitude d'échanger un lunch, en plus d'y insérer de petits mots. Cet échange de dons permet une proximité qu'on arrive à obtenir à travers ce repas, qui est malgré tout extrêmement routinier. Ça permet de rendre le repas un peu spécial. Au tournant de ses 14 ans, Gilles a été institutionnalisé dans un centre jeunesse à la suite d'une crise de santé mentale. Durant ce séjour, Yael a éprouvé le sentiment d'avoir perdu toute autonomie dans sa vie. Alors qu'elle participe à la préparation de ses repas depuis l'âge de 4 ans, il lui a été extrêmement difficile de ne plus avoir la possibilité de cuisiner dans ce centre jeunesse. Gilles lie son sentiment de perte d'autonomie à un ensemble de règlements fortement imposés, notamment à la mise en place de routines extrêmement strictes, ainsi qu'à l'impossibilité de recevoir des visites et d'entrer et sortir du centre selon sa volonté. Gilles raconte avoir déplacé sa colère et son besoin de contrôle sur la nourriture. Alors que les intervenants et intervenantes du centre jeunesse y décelaient des traces de troubles alimentaires, Yael explique qu'il s'agissait plutôt d'une manière d'affirmer son autonomie. En contrepartie, Gilles se remémore le meilleur moment de son séjour au centre jeunesse pendant le temps des fêtes. On lui avait permis de monter des menus et de prendre le contrôle de la cuisine, contribuant ainsi à créer un des rares moments où Yael s'est senti bien lors de cette période de sa vie. Vous écoutez « Le partage de nourriture comme langage d'affection », un texte de François Régimbal, Éric Richard, Gabriel Roy et Aude Fournier, paru dans le numéro du printemps 2025 de la revue du Crémis. Pratiques alternatives en alimentation. L'engagement de Gilles dans différentes activités au cégep semble avoir influencé son rapport à l'alimentation. Y vivant quasiment à plein temps, passant de se laver au cégep dans le bloc sportif à faire des siestes entre les cours sur le sofa de l'association, un petit groupe d'étudiants et étudiantes a développé spontanément des solutions alternatives en alimentation. Ce groupe préparait de grandes quantités de repas, tels que du chili, du mijoté et du curry, qu'il apportait dans les locaux de l'association étudiante pour que les gens en prennent selon leurs besoins. Régulièrement, un message amical, en plus d'instructions facilitant la reproduction de recettes, accompagnait le plat et les étudiants et étudiantes partageaient entre elles et eux des alternatives pour que ça coûte moins cher ou en fonction d'avoir le moins d'instruments de cuisine possible. Ils et elles ont également apporté dans les locaux du matériel pour préparer de la nourriture, comme un micro-ondes, un grille-pain, une bouilloire, pour éviter d'avoir à acheter des repas préparés. Gilles précise toutefois que bien que se soient tenues plusieurs discussions au sein du groupe pour transformer ces initiatives en mouvements organisés, elles sont finalement restées ponctuelles et portées par quelques personnes motivées et conscientes que certains étudiants, certaines étudiantes, pour des raisons diverses, ont besoin d'une aide pour se nourrir et de temps et d'espace pour cuisiner en grande quantité. Cela dit, des moments organisés ont pris place lors de grèves étudiantes, durant lesquelles ils et elles fournissaient un repas pour donner la possibilité aux étudiants et étudiantes de participer aux activités de mobilisation. L'engagement de Gilles dans des initiatives d'aide alimentaire s'est également manifesté à l'extérieur des murs du cégep, particulièrement dans les milieux trans ou queer, notamment en offrant des activités culinaires. Yael a pris conscience que les personnes trans sont préoccupées par tellement de choses qu'elles ont une alimentation totalement inadaptée, particulièrement en période de transition. Gilles compare la période de transition à une seconde puberté nécessitant des changements importants quant aux habitudes alimentaires. D'après son expérience, les défis alimentaires de cette population ne sont pas encadrés ni même discutés par le milieu institutionnel ou médical, alors qu'il s'agit d'un enjeu majeur. Devant ce vide, un petit groupe s'est réuni quelquefois pour élaborer un programme explorant des façons de cuisiner le plus rapidement possible, puis le moins coûteux, qui a ensuite été diffusé dans son entourage et transmis à des intervenants, intervenantes en contact avec des personnes concernées. Des expériences chargées de sens. Ce cas illustre la complexité et aussi l'unicité des expériences passées et présentes qui façonnent les comportements alimentaires de Gilles. Comme beaucoup de cégepiens et cégepiennes, Gilles a dû adapter ses comportements alimentaires à ce que nous qualifions de désorganisation temporelle qui accompagne les études postsecondaires. Ce constat fait écho aux travaux de Poulain suggérant que les individus sont amenés à passer d'un style alimentaire à un autre tout au long de leur cycle de vie. La désorganisation temporelle est un concept développé dans le cadre de la présente recherche afin de rendre compte des nouvelles difficultés que rencontrent les populations cégepiennes à propos des horaires scolaires discontinus et qui se coordonnent difficilement avec leurs amis et les membres de leur famille, autant qu'avec les multiples obligations qui accompagnent la vie estudiantine. Dans la transition aux études postsecondaires, le temps est bousculé et chamboulé. Gilles évoque avoir développé différentes astuces afin de faire face aux impératifs qui en découlent. Yael mentionne cuisiner en grande quantité, plusieurs fois le même repas, par exemple un riz toute la semaine pour 10 repas matin et soir. Ses propos suggèrent aussi qu'elle mange lors de ses déplacements et saute régulièrement un ou plusieurs repas, s'en tenant parfois à ne consommer qu'une barre tendre dans le métro ou encore à boire de la bière. Nos données indiquent en effet que pour les étudiants et étudiantes interrogés, 21% des repas sont sautés, et plusieurs personnes ont également affirmé troquer un repas au profit d'une collation, manger en se déplaçant ou encore faire une autre activité tout en mangeant, consulter son téléphone, regarder la télévision, étudier, etc. Gilles mentionne que ce n'est pas la précarité économique qui explique ces repas sautés, mais d'autres facteurs, comme le manque de temps, la surcharge de travail et des expériences passionnantes vécues au cours d'une journée, lui faisant perdre la notion du temps, de sorte que, parfois, elle oublie de manger. L'analyse de l'entrevue avec Gilles montre aussi que l'unicité de ses comportements alimentaires est constituée d'un amalgame de décisions individuelles, de compétences développées en bas âge, de contraintes rattachées au contexte d'études et à des expériences pénibles comme son séjour en centre jeunesse, ainsi qu'à d'autres, plus heureuses, notamment associées au militantisme. Si certains comportements alimentaires reflètent ceux des autres étudiants et étudiantes, ils s'en distinguent par le plaisir et par le temps que Gilles accorde à la préparation de ses repas, particulièrement de ses lunchs. Le bien-être associé à ces pratiques dépasse le cadre du repas. Il s'incarne dans les activités de transformation, de distribution et de consommation alimentaire, en plus de se traduire dans une volonté d'y rattacher des relations significatives, des expériences chargées de sens et une autonomie alimentaire accrue. Ces expériences en elles-mêmes influencent les comportements alimentaires, mais ce sont aussi les réflexions entretenues au sujet de ces pratiques qui permettent d'attribuer du sens tant aux expériences qu'aux comportements alimentaires. Le lien que Gilles fait entre son séjour en centre jeunesse et son régime végétarien en constitue un bon exemple. En effet, après plusieurs années à réfléchir à ce moment, Gilles identifie la nourriture comme ayant représenté une manière de surmonter l'agression d'avoir été dépossédé de son pouvoir décisionnel. Il s'agit d'une période charnière dans le rapport à son alimentation, dans le sens où ce besoin de contrôle sur des aspects plus fondamentaux de sa vie s'est exprimé par la maîtrise de son alimentation, à travers l'adoption d'un régime végétarien. Cependant, sa réflexion s'étend au-delà de cette seule épreuve. Gilles soutient avoir été également motivé par son histoire familiale. Sa mère ayant grandi sur une ferme laitière, Yann a pris conscience de certaines pratiques extrêmement violentes sur les animaux. Aussi, le partage de ses expériences de travail à l'abattoir avec son père et certains membres de sa famille ont contribué à l'avènement de son désir de ne plus manger de viande, que Gilles associe à des conditions de travail exécrables ou des expériences de travail qui n'étaient pas plaisantes. Ainsi, la combinaison de ce passé familial et de son expérience en centre jeunesse a fait émerger de fil en aiguille son identité idéologique végétarienne. Vous écoutez « Le partage de nourriture comme langage d'affection », un texte de François-Régin Ball, Éric Richard, Gabriel Roy et Aude Fournier, paru dans le numéro du printemps 2025 de la revue du Crémis. La nourriture comme liaison sociale. L'histoire de Gilles atteste de l'importance du lien qui existe entre les relations sociales et les comportements alimentaires. Par-delà son histoire familiale et l'influence parentale, Gilles situe l'alimentation au cœur de son rapport aux autres et la considère comme une manière d'exprimer son affection à leur égard. En effet, Yel a développé une grande sensibilité à l'égard de la détresse d'autrui, qu'elle cherche à diminuer en cuisinant et en distribuant des plats faits maison. Ce qui frappe, c'est surtout son souci de préserver la dignité des personnes qu'elle croise dans son quotidien au moyen de pratiques de partage de nourriture spontanée et anonyme. Alors qu'un des effets pervers de la charité est la stigmatisation des personnes, le partage anonyme semble ici capable d'éluder ce problème. De plus, plusieurs segments d'entretien suggèrent qu'elle ne souhaite pas créer un sentiment de redevabilité envers les personnes par rapport aux dons de nourriture. Et elle vise plutôt à reconnaître et à soutenir l'autonomie de ses pairs, notamment en accompagnant les plats d'instruction pour les reproduire. L'importance qu'elle accorde à l'autonomie apparaît également dans l'organisation du groupe de partage des bonnes pratiques alimentaires s'adressant aux populations trans et queer. Gilles a également développé une pratique singulière, soit la mise en place d'un garde-manger dans son casier au cégep, disponible pour elle lui-même ou pour le partage. Et elle raconte en effet que plusieurs de ses relations s'appuient sur le partage de nourriture qui incarne à ses yeux un langage d'affection de première classe. C'est avec une certaine fierté que Gilles souligne également prendre plaisir. C'est vraiment le fun, à voir des étudiants étudiantes avec un des plats qu'elle a cuisiné. Alors que nos travaux montrent que l'insécurité alimentaire touche plus de 4 cégepiens et cégepiennes sur 10, Gilles souligne prendre conscience, en vieillissant, du fait que, contrairement à ces situations, la majorité des personnes qu'elle côtoie se trouvent dans une précarité financière vraiment intense, en plus de manquer de temps pour cuisiner. Gilles a donc pris la décision d'élargir sa pratique de don de nourriture à l'ensemble des personnes rencontrées dans ses classes, à l'association étudiante ou dans les couloirs du cégep. À ses yeux, il y a quelque chose de malaisant dans l'idée d'être en train de manger son lunch, puis de savoir que la personne en face de toi ne mange pas, parce qu'elle ne peut pas. La pratique du partage de repas rattache Gilles à des personnes jusqu'alors inconnues, lui procurant un sentiment vraiment plaisant. Quant aux personnes qui lui sont proches, Gilles leur prépare un lunch qu'elles aiment, lorsque se présente l'envie de faire plaisir. Gilles est par ailleurs la seule personne rencontrée dans notre échantillon qui ait abordé sans détour la consommation d'alcool qui, à ses yeux, meuble nos moments sociaux. Yel observe dans son entourage que la majorité des événements sociaux dépendent d'une consommation d'alcool et s'interroge sur cet impératif. Dans un contexte de mobilisation et de militantisme, Gilles explique qu'une manière commune d'attirer un grand nombre de participants, participantes aux événements ciblant les populations étudiantes, est de descendre le prix de la bière. Il est à ses yeux désolant qu'on parvienne à mobiliser ainsi les individus par la consommation plutôt que par une idéologie ou la curiosité. À ses yeux, ces rituels sociaux mettent à mal l'autonomie des individus, en les plaçant d'entrée de jeu dans des situations où la consommation de boissons alcoolisées constitue la norme. Ce n'est pas ce à quoi quelqu'un s'attend. Déjà au début du 19e siècle, Brillat Savarin, 1825, s'intéressait au plaisir de la table, distinct du plaisir de manger, qui renvoie à un ensemble de sensations ressenties selon les circonstances, situées dans le temps et l'espace, dans lesquelles l'individu mange. De la même manière, Trémolière, 1964, s'intéressait aux comportements alimentaires tant d'un point de vue objectif que de ses motivations conscientes à l'intersection de plusieurs dimensions, notamment des besoins, de la santé et du bien-être. Cette mise en relief des dimensions sociales et culturelles de l'alimentation amène des chercheurs, chercheuses à dégager certaines tendances alimentaires. Ward, 1997. Un des pionniers dans le domaine est certainement Fischler, 1980, qui développe le concept de gastro-anomie, forme de déstructuration du repas familial au profit d'une individualisation de l'alimentation. Cette gastro-anomie opère dans un contexte d'effritement des normes sociales et d'une multiplication des règles et prescriptions alimentaires, souvent contradictoires. Comme il l'indique plus récemment, Fischler, 2013, l'individu est tiraillé dans sa volonté de maîtriser toutes les sphères de sa vie, amour, santé, jeunesse, sécurité, alimentation, etc. Alors que plusieurs habitudes alimentaires des cégepiens et cégepiennes font écho à cette gastro-anomie définie par Fischler, Gilles tente par différents moyens d'établir des liens avec autrui, dans lesquels l'alimentation joue un rôle clé. La mise en place de ces expériences collectives ouvre une brèche importante dans la manière habituelle d'individualiser les défis alimentaires, notamment par le concept d'insécurité alimentaire et ses solutions, comme la charité institutionnalisée. Ces nouveaux rituels alimentaires représentent ainsi des formes de résistance, pour utiliser les termes de Lardelier, face à la logique utilitariste, à l'individualisme et à l'impératif de spontanéité qui dominerait les sociétés occidentales et permettrait de renouer avec ce que Fischler nomme les aspects sociaux de l'alimentation, notamment la commensalité. En plus d'aider la personne d'un point de vue nutritionnel, le partage de plats fait maison crée, comme le souligne Gilles, des relations qui sont intéressantes, parce que ce n'est pas ce à quoi quelqu'un s'attend. Ces analyses suggèrent que la recherche doit continuer à s'intéresser aux mécanismes sociaux favorisant, ou à l'inverse faisant obstacle, aux initiatives spontanées, originales, alternatives porteuses de liens sociaux qui peuvent contribuer à l'autonomie alimentaire. Ce, notamment dans le milieu de l'enseignement supérieur, où les problématiques liées à l'insécurité et au mal-être alimentaire sont nombreuses. Une recension des sites web des établissements d'enseignement collégial du Québec, ayant pour objectif de mieux cerner la place que les collèges font à l'alimentation, montre par exemple qu'on y mentionne peu les initiatives de soutien alimentaire. Le cas de Gilles suggère par ailleurs que les initiatives de soutien alimentaire devraient être davantage pensées en collaboration avec les populations étudiantes, qui ne peuvent être réduites à de simples bouches à nourrir. À nos yeux, c'est finalement par l'écoute des populations concernées que les pratiques de soutien tendront vers le bien-être individuel et collectif. C'était « Le partage de nourriture comme langage d'affection ». Un texte de François Régimbal, Éric Richard, Gabriel Roy et Aude Fournier, paru dans le numéro du printemps 2025 de la revue du Crémis.
Triper théâtre en région, un texte de Catherine Lalonde, paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir. Il se passe quelque chose dans les régions du Québec depuis la pandémie, croit la directrice artistique du Théâtre du Bic, à Rimouski, Marie-Hélène Gendreau. Plusieurs artistes de ma génération veulent y travailler, y monter des initiatives, observe-t-elle. Et les théâtres qui s'y trouvent sont conscients d'être un moteur social et artistique pour un vaste territoire et pour un public très varié. Observons Montréal. Dans le quartier des spectacles, se côtoient dans un gros kilomètre carré le Théâtre du Nouveau Monde, du CEP, la Place des Arts, l'édifice Wilder de la danse, le MTLUS, le Club Soda, le Théâtre Saint-Denis. Le spectateur a un grand choix. En région, la réalité est tout autre. Le théâtre du coin est souvent un phare qui brille seul sur un large territoire. Prenez la rubrique à Saguenay, qui produit et diffuse des spectacles depuis 1979. C'est l'organisme culturel le plus subventionné du territoire, selon son directeur artistique, Benoît Lagrandeur. Je nous perçois comme un pôle culturel régional, explique-t-il, sans qu'on ait les moyens de jouer ce rôle, ce que je souhaiterais. Un rôle bardé de responsabilités. Diffuser des œuvres actuelles importantes du Québec et aider les compagnies artistiques du coin. Les jeunes d'ici nous demandent de les recevoir en résidence de création ou en coproduction. Et pour M. Lagrandeur, produire des spectacles en région reste essentiel. « Quand tu produis, explique-t-il, ton public voit comment les créations se font, étape par étape. Et quand les spectacles plus pointus de Montréal arrivent, nos spectateurs y sont ouverts, parce qu'ils sont habitués de suivre une création. » La rubrique peut ainsi accueillir avec assurance les chorégraphies de José Navas ou la danse jeune public Dampleman Dance. Fin d'Éric Jean y a été applaudi comme « Pendant que les champs brûlent » du PAP. Et la dernière cassette, la belle Violette Chauveau qui tient le rôle principal a eu « Quatre rappels se réjouit, Monsieur Lagrandeur ». Par contre, avec deux femmes en or de Catherine Léger, j'étais sûre qu'on allait remplir la salle. On a fait 75%. La rubrique va assez bien. C'est beaucoup parce que la ville paie la bâtisse où le théâtre est en résidence et son entretien. Mais sa situation n'est pas sans défi. Là, il reste un 10% de spectateurs à récupérer, pas revenus depuis la pandémie. Risquer la fidélité. Au BIC, le théâtre fait là aussi travailler les acteurs du coin. Il y a une grande rétention dans notre région, commente Marie-Hélène Gendreau, qui a repris en 2022 les rênes artistiques. De solides rénovations ont laissé le théâtre avec un déficit de 177 000 $ en 2024. Le chantier était nécessaire. Le public délaissait la salle. Il faisait trop chaud, trop froid, de l'eau coulait, rien n'était adapté pour recevoir adéquatement des productions, rappelle Mme Gendreau. Depuis la réouverture de juin 2023, l'élan d'amour est palpable. Les revenus de billetterie des deux dernières années tiennent du jamais vu dans l'histoire de cet établissement, fondé en 1973, indique la directrice générale Marjorie Maury. La saison 2024-2025 est en voie d'atteindre une augmentation de 19% de l'achalandage par rapport à la précédente. Au BIC, on fait essentiellement du théâtre en été. Pendant la saison régulière, on accueille des spectacles venus d'ailleurs une fois tous les 10 jours, et le taux d'occupation oscille autour de 75%. Mais lors de la saison estivale et touristique, en présentant sa production maison, la salle s'emplit à 97%. C'est là qu'on peut renflouer notre bas de laine, confie Mme Maury. C'est là qu'on voit si on pourra présenter tout ce qu'on souhaite la saison prochaine. Au BIC, le montant du soutien à la mission du Conseil des arts et des lettres du Québec est le même depuis 15 ans. Les deux directrices aiment prendre des risques. Entre un spectacle qui coûte un peu moins cher, qui ne remplira probablement pas la salle, et un beaucoup plus cher qui va faire un tabac, on choisit de travailler la fidélisation de notre public, analyse Mme Gendreau. Exemple, Agamemnon in the Ring, pièce bonbon des productions Unuknu, qui mêle lutte, comédie musicale et mythologie grecque à la sauce québécoise, et que le BIC a présenté en avril dernier. Ils sont 12 comédiens sur scène. Impossible que ce soit rentable dans notre salle de 192 places. On était complet, on a fait le tiers de ce que ça nous a coûté pour les recevoir. Mais les gens ont tellement passé une bonne soirée, résume Mme Gendreau. Mais pour risquer ce calcul, le théâtre gruge sur la médiation, outil très efficace de développement de public, et sur le budget de ressources humaines. On se sent toutes à un pas de l'épuisement professionnel. Il suffit d'un déclic et on ne pourra plus tenir ce qu'on tient. Si j'avais un char. À Trois-Rivières, les sages fous, spécialisés en marionnettes et en théâtre d'objets, sont choyés. L'année 2024 a été leur première année à prendre possession de l'église Saint-James après des rénovations menées pour en faire un lieu sur mesure pour leurs besoins. Mini-salle de 71 places, atelier de construction, résidence pour accueillir les artistes étrangers qu'ils invitent au micro-festival de marionnettes inachevé. Financièrement, la compagnie s'appuie sur 557 360 $ de subventions de fonctionnement annuel. La principale vient de la ville, qui prend en charge le loyer et l'entretien de l'immeuble, un peu comme à la rubrique. L'avantage d'un tel investissement municipal pratico-pratique, il suit naturellement la hausse des loyers. La position des sages fous est enviable et fragile, comme l'explique South Miller, cofondatrice de cette compagnie, née il y a 26 ans. On a beaucoup plus de frais parce qu'on gère maintenant un gigantesque bâtiment, un théâtre, des artistes en résidence, de la médiation et des spectacles. Les trois fondateurs qui disent travailler 7 jours sur 7 ont un salaire de 50 000 $ par année. Les deux autres employés, à la direction administrative et technique, touchent respectivement 65 000 et 60 000 $. Si Mme Miller estime ce décalage normal parce que la compagnie, c'est notre bébé, d'un autre côté, elle déplore de devoir, à son âge, emprunter à ses parents quand elle a besoin de changer de voiture. Freiner ou s'envoler? Un des problèmes des théâtres en région, c'est de devoir lutter constamment contre l'idée qu'ils sont trop loin aux yeux du public, des artistes, des médias et des critiques. Aussi, quand on reçoit des artistes en résidence, ils ne sont pas téléportés à Saguenay. Il y a de bons frais supplémentaires, rappelle M. Lagrandeur. Les deux directrices du BIC soulignent de leur côté les limites du financement privé en région. Les grands sièges sociaux, ils ne sont pas nombreux. On n'a pas de maison mère ici. Il y a un paradoxe que Marie-Hélène Gendreau veut nommer qu'illuse. Depuis quelques années, les conseils des arts nous invitent à une décroissance culturelle, à faire moins. Mais on est en plein essor ici. Les ventes de billets atteignent des sommets. Les spectacles nichés de Montréal, tels Ciseaux, de Pleurer dans douche, font salle comble. Les productions faites au BIC, comme Fanny, s'en vont à la Licorne, à la Bordée, à la Rubrique, à Gaspé et à Baie-Comeau. Elles permettent à des comédiens de Montréal, Québec, du BIC, de créer, jouer, tourner ensemble, ce qui augmente les frais de déplacement de tout ce beau monde. Je vois les gens franchir nos portes avec une grande soif d'audace artistique. Un public de tous âges et qui rajeunit. C'est comme si on me demandait de mettre le pied sur le frein alors que je conduis une décapotable pleine de gens qui rient et qui chantent avec le vent d'un cheveu. Alors que je sens qu'il faudrait qu'on accélère parce que notre rôle, on le joue pour toute une communauté. Il nous faut une vision qui doit venir d'au-dessus de nous et qui nous porte tous ensemble. C'était Tripé théâtre en région, un texte de Catherine Lalonde, paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir.
Des athlètes qui rêvent déjà de neige et des Jeux olympiques. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 30 mai 2025 dans Le Devoir. Alors que le reste du Québec n'en peut plus d'attendre l'arrivée de l'été, ces athlètes olympiques ont déjà la tête en hiver, aux prochains Jeux olympiques d'hiver dans 8 mois. Pour un athlète, la participation à des Jeux olympiques est évidemment l'aboutissement du parcours entrepris bien des années auparavant. Mais même lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau, chaque nouvelle participation se prépare généralement longuement. Ça commence 4 ans avant, dès le lendemain des Jeux précédents, dit Valérie Maltais, patineuse de vitesse longue piste, qui a de bonnes chances de participer à ses 5e Jeux en carrière à Milan, en Italie, au mois de février 2026. Chaque saison de compétition vient avec ses propres objectifs, mais derrière tout cela, on ne perd jamais de vue le principal, a expliqué jeudi en entrevue au Devoir l'athlète du Saguenay. Dans le cas de la patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin, la première année du cycle olympique qui s'achève était consacrée à la recherche et au développement tactique. C'est comme en Formule 1, il y a plus d'une façon de préparer un dépassement et de gagner maintenant. La quadruple médaillée olympique a passé une partie de sa 2e année en stage dans le cadre de ses études en éducation spécialisée. Je me suis rendu compte, au fil des ans, que j'avais besoin de prendre des pauses du sport pour ma santé mentale. C'était une occasion aussi de voir si j'étudie dans le bon domaine. Je vais avoir 31 ans après les Jeux. C'est important aussi de penser à ce que je ferai après. L'année qui vient de s'achever a servi à tester et à repousser ses limites physiques. Les entraînements ont été vraiment durs. Je crois que l'une des choses qui sont encore mal comprises à propos de notre sport, c'est comment ça fait mal aux jambes lorsqu'on court, explique l'athlète de Sherbrooke. On reviendra, les prochains mois, à une intensité d'entraînement moins extrême, pour procéder à de derniers ajustements visant à assurer sa qualification aux Jeux et d'y arriver au sommet de sa forme. Penser aux juges et à ne pas se blesser. Comme on sait que les juges en patinage artistique n'aiment pas voir et entendre les mêmes choses, les danseurs sur glace Marjorie Lajoie et Zachary Laga ne se contenteront pas de préparer un tout nouveau programme en vue des Jeux de Milan-Cortina. Ils ont fait exprès, en 2024, de compétitionner sur un air populaire de l'ancien groupe Simon & Garfunkel pour pouvoir revenir, en cette année olympique, à la musique qu'ils préfèrent, c'est-à-dire du classique. Tout ne fonctionne évidemment pas toujours comme prévu. Médaillé de bronze à l'épreuve de saut en ski acrobatique à ses premiers Jeux à Pékin en 2022, la Sherbrookoise de 25 ans, Marion Thénault, avait décidé de s'engager sur la voie plus risquée, mais potentiellement plus payante, des triples sauts. Il lui a fallu des mois pour se remettre d'une terrible chute survenue à l'entraînement au début de la saison dernière. Je me suis fait très peur. Il y a aussi des exceptions. Je ne me prépare pas pour les Jeux olympiques des années d'avance. J'ai l'impression que ça viendrait mettre trop de pression sur une seule descente de 22 secondes tous les 4 ans. Je prends une saison à la fois, dit le skieur de bosse le plus décoré de l'histoire, Michael Kingsbury. Il compte tout au plus s'assurer de connaître un solide début de saison, puis de lever un peu le pied en janvier, pour arriver à la fois confiant et reposé le mois suivant en Italie. L'épreuve de speed dating. Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina doivent se tenir du 6 au 22 février 2026 et seront suivis par les Jeux paralympiques du 6 au 15 mars. Près de 3 500 athlètes de 93 pays y sont attendus. En prévision, le Comité olympique canadien, COC, a organisé cette semaine, dans un hôtel à l'aéroport de Montréal, des activités d'information et de préparation à l'intention des athlètes et des accompagnateurs susceptibles d'y représenter le Canada. L'événement s'est conclu par une longue journée de rencontres en série avec les médias canadiens, les multiples plateformes du diffuseur olympique officiel et d'autres partenaires du mouvement olympique canadien dans ce qui avait des allures de speed dating. Il fallait voir les athlètes passer toutes les 15 minutes d'une petite salle à l'autre pour répondre aux questions des journalistes, se faire maquiller, tourner des vidéos devant des écrans verts et se faire photographier avec une paire de patins autour du cou. « Ça va, je ne suis pas encore trop tanné », a dit Elliott Grondin, double médaillé aux Jeux de Pékin en snowboard cross, qui approchait de la fin des 24 rencontres qu'on avait prévues pour lui. On est dans le sport amateur. Contrairement au sport professionnel, on est toujours content d'avoir la chance de faire parler de ce qu'on fait. Bien que les chances de plusieurs de ces athlètes soient excellentes, la plupart d'entre eux n'ont toujours pas leur qualification en poche. Ça devrait normalement aller. Il faut seulement faire attention de ne pas se blesser, dit Marion Thénault. Nouveauté et retour à l'original. Pour d'autres, la qualification est moins acquise. C'est le cas, par exemple, d'Emma Cook-Clark de Canmore en Alberta. Déjà fondeuse et adepte de la course extrême en montagne, Sky Running, l'athlète s'est mise, il y a 4 ans, au ski alpinisme. Surtout populaire dans les pays alpins d'Europe, la discipline sera pour la première fois au jeu. Elle consiste à monter une pente enneigée avec de larges skis de fond munis de peaux antidérapantes, mais aussi à la course, chaussée de ses lourdes bottes de ski, les planches dans un sac à dos. Puis, aussitôt arrivée en haut, on redescend la pente après avoir enlevé les peaux et solidement fixé ses bottes au ski. Il y a une épreuve sprint et une autre à relais mixte. Il faut éviter de perdre trop de temps lors des transitions. Les jambes vous font terriblement mal, le cœur et les poumons veulent vous sortir de la poitrine, explique l'ancienne pompière qui en a pourtant vu d'autres. Pour ceux comme le patineur de vitesse courte piste Steven Dubois qui n'ont connu que les Jeux pandémiques de Pékin, Milan-Cortina serait l'occasion de vivre de vrais Jeux avec leur animation dans les rues et la foule dans les gradins. C'est très impressionnant de courir devant une grosse foule. Moi j'aime ça, surtout à l'étranger. Ça me motive. De toute façon, dès que la course est commencée, je suis tellement concentré que je n'entends plus rien. Seulement le bruit des lames sur la glace, raconte le triple médaillé à Pékin. J'ai hâte. C'était des athlètes qui rêvent déjà de neige et des Jeux olympiques, un texte d'Éric Desrosiers paru le 30 mai 2025 dans Le Devoir.
Moira Ouach Teskoun, Bacon, s'enraciner par la parole. Un texte de Vicky Sansfaçon, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires. Moira Ouach Teskoun, Bacon, n'en est plus à ses premières armes littéraires. Sa voix, à la fois singulière et percutante, s'est imposé dès son premier roman jeune adulte, Envole-toi, Mikoun, édition Anne Norak, où elle explore avec sensibilité et poésie les questions identitaires et la quête de repères d'une jeune Innu. Avec son deuxième roman, L'ami de mon père, édition Anne Norak, l'autrice continue de creuser ses thématiques porteuses en se concentrant cette fois-ci sur la relation conflictuelle qui unit une fille à son père. Dans ce récit saupoudré de réalisme magique, Moira Ouachtescoun explore la complexité des relations familiales ainsi que la fragilité des liens lorsque ceux-ci sont emmurés dans un silence qui entrave la transmission. Maria, 14 ans, a la certitude que son père, Tom Basil, la déteste. Constat gravissime, mais qui pèse lourd dans le cœur de notre protagoniste comme une vérité irréfutable. Il suffit qu'ils se retrouvent dans la même pièce pour que le malaise s'installe, ajoutant une nouvelle brique à la muraille d'occasions manquées et d'inconfort qu'ils érigent depuis des années et qui les éloigne chaque jour davantage. Alors, pourquoi a-t-elle nourri l'espoir que les choses pouvaient être différentes avec ce père qui a choisi de s'effacer de sa vie? Qu'en allant passer un été en tête-à-tête avec lui, dans la communauté de Pimichuan, il pourrait réparer ce lien brisé. Mais les heures de route interminable, ponctuées seulement par le vrombissement du moteur, aussi furieux que son propriétaire, la ramènent vite à la réalité. C'est sans doute cet espoir, fragile puisque toujours déçu, qui explique cette colère silencieuse que l'on devine chez Maria. Une colère qui ne relève pas d'une simple crise d'adolescence, mais bien d'un conflit intérieur lié à son identité. L'absence de son père la prive d'une part d'elle-même. Pour Maria, l'enjeu est d'autant plus important que son identité est multiple, étant la fille d'une mère allochtone et d'un père autochtone. Cette situation complexe, que l'autrice n'a pas connue elle-même, ayant grandi avec deux parents Innu, elle l'observe chez les jeunes qu'elle rencontre, tiraillés entre deux mondes et parfois contraints de renoncer à une part de leur identité pour n'en privilégier qu'une seule. Maria est une enfant blessée, mais elle ignore elle-même les racines de son mal-être. Elle ne fait que le cultiver et s'en protège en se réfugiant derrière la colère. Une colère aveugle et diffuse qui ne sait s'exprimer que par les termes péjoratifs qu'elle emploie pour désigner les réalités d'une culture dont elle ignore les codes, faute de les avoir reçus. Malgré le rejet, le besoin de comprendre demeure plus fort que tout. Maria doit savoir. Si elle perce le mystère du silence de son père, elle espère trouver des réponses à ses propres interrogations. Tom n'a jamais été présent. Il n'est plus une figure parentale, mais une énigme à résoudre. En déchiffrant le secret de son père, Maria espère rassembler les fragments manquants de son identité et mieux saisir leur influence sur sa vie. Cependant, comme le souligne l'autrice, il est impossible, dans le présent de l'histoire, de créer un lien entre Maria et Tom. C'est alors qu'intervient le procédé narratif du voyage dans le temps. Maria se retrouve projetée en 1982, chargée d'empêcher un drame qui a secoué la communauté. Ce détour par le passé lui offre la chance unique d'aller à la rencontre du jeune garçon qu'était Tom et, à travers cette quête, de peut-être mieux se comprendre elle-même. S'amorce une enquête qui conduit Maria à tisser des liens plus profonds avec la communauté. Au fil de ces rencontres, elle découvre bien plus qu'un Tom solitaire en quête de connexion. Elle met au jour les racines du silence qui pèse sur son quotidien, ainsi que sur celui des habitants de Pimichuan. Un silence qui, nourri par l'ombre oppressante du pensionnat situé dans la cour arrière du village, révèle une mémoire collective marquée par la douleur. Combien de membres de la communauté, comme les parents de Tom, ont été démolis par les sévices subis entre les murs de cette institution et qui, sous le poids des malheurs, ont vu leurs paroles se briser. Les blessures sont encore fraîches et c'est très dur d'aborder cette réalité. C'est un silence qui s'est transmis de génération en génération. On parle de plus en plus de ce trauma générationnel, mais sans être capable d'en définir exactement les contours et sans la force de le creuser complètement. Ça reste tabou. Je trouvais ça important de représenter dans le roman ce flou dans lequel j'ai baigné toute ma jeunesse et dans lequel je baigne encore aujourd'hui. Cependant, prétendre qu'il est possible de mettre un point final à cette histoire lui ferait injustice. La guérison, telle que la décrit l'autrice dans « L'ami de mon père », est un processus lent, exigeant, mais nécessaire, qui se manifeste de multiples façons. La réappropriation de cette parole arrachée constitue et continuera d'être une étape essentielle dans ce processus. C'est un pas que Tom accomplit, comme de nombreux membres de sa communauté, en apprenant l'inou, emun, la langue des aînés, ceux qui ont subi de plein fouet les effets de la colonisation et dont le message se transmet plus fidèlement à travers leur langue première qui est intimement liée au territoire duquel on a tenté de les déraciner. Ce même élan portera aussi Maria, qui, au fil de cette aventure, acquérera les mots pour nommer sa blessure ainsi que des guides pour l'orienter sur le chemin de la guérison. En juin, je lis Autochtone. Curieux de découvrir ce roman? Pourquoi ne pas profiter de la 5e édition de l'Initiative? En juin, je lis Autochtone, pour vous y plonger et ainsi célébrer la vitalité et la créativité des auteurs et autrices des Premières Nations, des nations métisses et inuites. La porte-parole de cette édition, Moira Ouachtescoun Bacon, rappelle « Il s'agit d'une invitation lancée tout au long de l'année, mais cibler un mois précis donne une belle occasion à celles et ceux qui souhaitent découvrir la littérature autochtone de le faire ensemble, de partager leur lecture et d'échanger autour de ces œuvres. » Tout au long du mois de juin, l'effervescence sera effectivement à son comble en librairie et dans les bibliothèques. Rencontres, discussions, animations, autant d'occasions inédites de créer des liens entre les écrivains autochtones et un public toujours plus curieux et diversifié. Le populaire carnet thématique fera aussi son grand retour, en version papier et numérique, et mettra l'accent sur le théâtre autochtone, tout en célébrant la diversité des voix, des styles et des univers littéraires avec une foule de suggestions de lecture et d'entrevues inspirantes. Parmi celles et ceux qui souhaitent découvrir l'univers théâtral des Premières Nations, l'autrice recommande la pièce « Okinum » d'Émilie Monet, publiée aux éditions Les Herbes Rouges. Cette œuvre fascinante revient dans une nouvelle édition revisitée et enrichie, une belle occasion pour le public de la redécouvrir. Pour un public plus jeune, elle suggère une belle porte d'entrée dans l'imaginaire riche des contes et légendes traditionnelles autochtones, teintés de réalisme magique, avec « Trouver la maison » d'Océane, Kitoura Bohémier, Toutou. Et finalement, pour les amateurs de textes courts et percutants, les titres de la collection Solstice, une série de novelles publiées chez Anénorak, sont à découvrir, dont Le terre-plein de la destinée de Louis-Carl Picard-Sioui, ainsi que la nouvelle parution d'Aubom, Le passe-muraille. Autant de suggestions éclectiques qui rappellent que la littérature autochtone ne se laisse enfermer dans aucune case. Vivante, inventive, originale, elle évolue au rythme du souffle créatif de ses auteurs et autrices. Une richesse à explorer tout au long du mois de juin et bien au-delà. Les suggestions de Moira Ouachteskoun Bacon. Okinum par Émilie Monet, Les Herbes Rouges. Trouver la maison par Océane Kitoura Bohémier Toutou, édition Anénorak. Le terre-plein de la destinée par Louis-Carl Picard-Sioui, édition Anénorak. Le passe-muraille par Aubom, édition Anénorak. Visitez le site jelisautochtone.ca pour découvrir d'autres suggestions et en connaître davantage sur cette initiative et sa programmation. C'était Moira Ouachteskoun Bacon, S'enraciner par la parole. Un texte de Vicky Sansfaçon paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires.